Dixième épisode. Les signaux mystérieux. Chapitre 1er. Une arrestation difficile. Dans une crique déserte de la plage de Cliff House, à 8 milles de San Francisco, une embarcation venait d'atterrir. Les deux hommes qui en descendirent ne prirent même pas la peine de la haler sur le rivage. Tous deux semblaient en proie à une violente émotion et ils se dirigèrent en courant vers l'intérieur des terres sans regarder derrière eux, sans se soucier d'emporter divers objets déposés au fond de la barque et parmi lesquels figuraient une grosse Bible, un registre, un bout de cierge et un long couteau taché de sang. Le costume des deux fugitifs, d'ailleurs, eut justifié par son étrangeté les suppositions les plus extraordinaires. L'un, un homme dans la force de l'âge, dont les biceps très développés, le deltoïde et les pectoraux saillants annonçaient une grande vigueur, n'avait pour tout costume qu'un caleçon de bain. L'autre, un étique adolescent dont le visage osseux, au nœud crochu, au menton en galoche, aux petits yeux verdâtres, offrait un comique irrésistible, était affublé d'un surplis de ministre protestant, froissé et trempé d'eau de mer, par-dessous lequel il portait un complet à carreaux d'assez bonne coupe, mais de nuances voyantes. « Ouf !» s'écria le premier de ces deux étranges personnages en atteignant la crête d'une haute dune de sable. « Je voudrais bien m'arrêter pour souffler un peu. Je suis tout en sueur. »«
T'es pourtant pas le moment de s'amuser !» répondit l'autre avec une grimace. « Descends au moins jusqu'au bas de la pente. D'ici, on t'apercevrait 2 000 de distance. »«
Merci du conseil, mais pour ton compte, tu ne ferais pas mal d'enlever ton surplis. »
« Ma foi, je n'y pensais plus. Je vais le rouler en boule et l'enterrer dans le sable. C'est pas la peine de laisser en évidence ce respectable vêtement. »
Le maigre adolescent, tout en parlant, s'était débarrassé du compromettant surplis et il avait déjà enfui dans le sable de la dune en l'assujettissant, pour plus de précaution, avec une grosse pierre.
« Et maintenant, dit-il en s'esclaffant, je saurai le retrouver quand j'en aurai besoin. »
Son compagnon ne parut nullement disposé à montrer la même jovialité.
« Je n'ai pas envie de rire, moi, » grommela-t-il. « On est sûrement en train de nous courir après. Si seulement j'avais des habits.
La tâche est de t'en trouver. »
« Si tu fais cela, mon vieux dad, je dirais que tu as du génie. »
Les deux fugitifs continuèrent de suivre en marchant aussi vite que possible une gorge étroite qui séparait deux monticules plantés de maigres arbustes courbés par le vent de la mer. Ils atteignirent bientôt un bouquet d'arbres au milieu duquel s'élevait une maisonnette en bois.
« Voilà peut-être un tailleur pour toi, »
fit Dad facétieusement.
« J'en doute fort. »«
Nous allons bien voir, mon brave Toby. Il faut en courir la chance. »«
Mais comment vas-tu t'y prendre ?»«
Ça dépendra des circonstances. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser parler. »
En approchant, ils reconnurent que la maison de bois était une épicerie buvette. Derrière les vitres de la fenêtre, s'alignaient des bocaux remplis de gâteaux moisis et de sucreries agglomérées en un seul bloc, au fond du récipient, de façon à rappeler certaines couches géologiques. Enfin, des boîtes à thé rouillées et quelques bouteilles de sirop. À la seule inspection de ce modeste stock de marchandises, il était facile de voir que le commerce ne prospérait guère, et on se demandait avec curiosité quelle sorte de clientèle pouvait bien exister dans ce désert. Dad et son compagnon, sans s'arrêter à ses réflexions, entrèrent délibérément dans la boutique et demandèrent 2 citronnades à la débitante, une brave femme aux cheveux gris, qui parut aussi surprise qu'émerveillée de l'apparition de 2 clients, dont un en caleçon de bain. Elle s'empressa de les servir sans essayer de s'expliquer cette anomalie.
« Voilà une des meilleures citronnades que j'ai jamais bu, » fit Dad avec aplomb. « Voulez-vous, s'il vous plaît, nous en servir une autre ?»
Il se pourléchait les lèvres avec une grimace si drôle que la débitante ne put s'empêcher de rire.
« Vous riez ?» reprit-il gravement. « Est-ce parce que mon ami se présente à vous au caleçon prêt, dans le simple costume de notre père Adam ? Sa mésaventure n'a pourtant rien d'amusant. Savez-vous que pendant qu'il était en train de prendre son bain, des coquins se sont emparés de tous ses vêtements et de son portefeuille qui contenait 5 000 $ ?»«
Vraiment, ce gentleman n'a pas de chance, » murmura l'hôtesse apitoyée.
« Ce qui l'ennuie le plus, c'est qu'il n'est même pas en état de payer la gare, ni d'aller au poste de police pour porter plainte. Vous pouvez nous sortir d'embarras. »
Dad montra du doigt un chapeau de paille accroché au mur et que son œil de lynx avait aperçu dès en entrant.
« Prêtez-nous des vêtements appartenant à votre mari. Je vous donne ma parole de gentleman que vous serez largement indemnisé. »
Et comme la débutante paraissait hésiter.
« Tenez !»
fit-il en tirant de son portefeuille un billet de 100 $.
« Prenez cela et cédez-nous en échange un vieux complet et une chemise. »
« Et des souliers !» ajouta Toby, qui jusqu'alors n'avait pas ouvert la bouche. À la vue du billet de banque, avait produit sur la bonne femme un effet magique.
« Vous aurez aussi un chapeau, » dit-elle généreusement. « Marché conclu, alors. Mais par exemple, dépêchons-nous. Plus tôt mon ami sera habillé, plus vite il pourra être rendu au bureau de police. »«
Par les temps qui courent, » ajouta Toby effrontément, « les honnêtes gens ne sont plus en sûreté de leur vie. » Il n'y avait guère besoin de stimuler le zèle de l'hôtesse, qui n'avait peur que d'une chose, c'est que ses clients inespérés ne se repentissent de leur marché.
« Je vais vous donner un complet de mon mari, travaille au doc.
Dame, ce n'est que de la toile, mais il est encore tout propre, et il ira comme un grand ce gentleman. Et avec cela, une bonne chemise de coton qui n'a pas été portée plus de 5 à 6 fois. »
Elle grimpa au premier étage avec la vivacité d'une jeune fille, et redescendit bientôt, annonçant à Dad que son ami pouvait monter s'habiller, qu'il trouverait les effets posés sur le lit.
5 minutes plus tard, Toby revenait vêtu d'un complet de coutil jaune, coiffé d'un feutre usagé et chaussé de brodequins à clous. Dad fit son affaire du chapeau de paille. C'est avec force salutations et compliments qu'ils prirent congé de la charitable débutante. Elle ne les laissa partir qu'après les avoir forcés d'accepter un verre de whisky, dont, malgré la police, elle conservait en grand mystère une bouteille pour les cas de maladie.
« Tout va bien !» murmura Dad, quand ils furent à quelque distance de la maisonnette. « Je crois que nous en tirerons encore cette fois. »«
Oui, » fit Toby, qui paraissait beaucoup moins rassuré. « Mais il s'agit de ne pas moisir ici. Et d'abord, comment allons-nous regagner Frisco ?»«
Ce ne sera toujours pas par le chemin de fer. La gare doit être occupée par les détectives de John Jarvis. »«
As-tu une idée ?»«
Le plus prudent est de faire à pied au moins la moitié de la route, en coupant à travers le bois que tu aperçois en face de nous. »«
Peut-être vaudrait-il mieux nous cacher jusqu'à la nuit. » Dans un buisson ou dans quelque trou de rocher.
Mauvais, grommela Dad en secouant la tête. Je suis sûr que tout ce coin de la grève va être fouillé. Il faut nous éloigner le plus possible de la mer. C'est une question de simple bon sens.
Dad, malgré son jeune âge, avait sur Toby une certaine autorité, et il n'eut pas de peine à convaincre celui-ci. Tournant le dos au rivage, tous deux continuèrent à marcher, ou plutôt à courir, dans la direction du bois. Il n'en était plus qu'à une 100 yards lorsqu'une 10aine d'hommes que dirigeait Floridor sortirent brusquement de derrière les buissons et les troncs d'arbres où ils s'étaient embusqués et s'élancèrent vers les deux bandits, le Browning au poing.
« Sont eux !» cria le Canadien. « En avant ! Nous les tenons !»« Sauf qui peut !» dit rapidement Dad à Toby. « Divisons-les ! Rendez-vous ce soir au tripot du père Kikirinel !»
Agile et maigre comme un clown, Dad filait d'abord en ligne droite dans la direction du nord, sans se soucier des balles qui grésillaient autour de lui. Puis, par un crochet inattendu, il revint brusquement vers le bois et se faufila entre les buissons qui le mettaient, provisoirement du moins, à l'abri des projectiles. La moitié des hommes de Floridor s'était élancée vers le bois. L'autre moitié poursuivait chaudement le second bandit qui, lui, s'était dirigé du côté de la mer. La ruse de Dad avait donc obtenu le résultat qu'il en espérait. Diviser la troupe des poursuivants et, par conséquent, diminuer leur nombre de moitié pour chacun des fugitifs. Toby Grogan détalait comme un cerf. On eût dit que ses pieds ne faisaient qu'effleurer le sol, comme s'il eut des ailes au talon. Il passa, avec la vitesse d'un boulet de canon, en face de la maison où il avait acheté des vêtements, et eut bientôt fait de mettre entre ses adversaires et lui plusieurs de ces monticules de sable que séparaient des gorges profondes. La tête haute, la poitrine bombée, les coudes au corps, Toby courait avec méthode, comme un véritable sportsman. Malheureusement pour lui, il avait affaire à forte partie. Parmi les personnes de bonne volonté qui s'étaient offertes pour donner la chasse aux assassins de Miss Rosie Grice, se trouvaient deux jeunes gens qui s'étaient récemment entraînés pour une course à pied. L'un d'eux était même titulaire de différents prix dans les matchs de footing. Cet adversaire redoutable ne tarda pas à gagner du terrain. Et bientôt, il ne fut plus qu'à une 10aine de mètres de Toby. Ce dernier se vit perdu. Alors, il simula la fatigue, courut moins vite et se laissa rejoindre. Mais au moment où le coureur poussait déjà un cri de triomphe en lui mettant la main sur l'épaule, il se retourna avec la vitesse de l'éclair et par une de ces manœuvres traîtresses que connaissent les malfaiteurs de profession, il lui fractura le tibia gauche d'un coup sec de son talon ferré, lancé obliquement de toute sa force.
« Ah, toi, au moins, tu ne m'embêteras plus » ricana-t-il.
Il bondit de nouveau à travers les dunes. Mais quelques minutes plus tard, un nouvel ennemi était prêt de le rejoindre. Et celui-là était armé, et furieux de ce qui était advenu à son camarade, ne paraissait nullement disposé à se laisser prendre au même piège que celui-ci. Sitôt qu'il fut à portée, il cria à Toby de lever les mains et, le mettant en joue, lui ordonna de s'approcher. Le bandit fit d'abord semblant d'obéir, mais arrivé tout auprès de son adversaire, il lui saisit le poignet à l'improviste et le força de laisser tomber son Browning. Au même instant, il lui décochait un terrible coup de tête dans le ventre et l'envoyait rouler en bas de la dune, vomissant le sang à flots. Toby s'était emparé de Browning, et maintenant, il considérait la partie comme gagnée. Il entendait de loin les cris de Floridor et de ses hommes demeurés très en arrière. Et il pensa qu'il perdrait encore beaucoup de temps à ramasser et à soigner les deux blessés. Il continua donc à courir, mais en ménageant ses forces et sans trop se presser. Il allait atteindre le sommet d'un de ces monticules de sable qui se continuait sans interruption jusqu'au rivage quand il se rejeta brusquement en arrière. Une troupe de marins, commandée par le capitaine Rampal, venait de débarquer dans la crique grâce à la yole de la goélette. Toby était pris entre deux feux, et il ne s'en était fallu que de quelques secondes pour qu'il fût aperçu par les nouveaux arrivants. Il regarda autour de lui avec un désespoir mêlé de rage. De toutes parts, la retraite lui était coupée. Quand il aurait épuisé les 5 cartouches qui lui restaient à tirer, il serait immanquablement tué ou pris. À chaque minute qui s'écoulait, les marins se rapprochaient. Il n'était plus qu'à une centaine de yards, et autour de lui, les dunes stériles et sans cesse déplacées par le vent du Pacifique n'offraient ni un buisson, ni un rocher qui eût pu lui servir de cachette. Il rinça des dents avec fureur. Ses yeux s'injectaient de sang.
« J'en descendrai toujours quelques-uns, » grommela-t-il entre ses dents. « Ils ne mourront pas vivants. »
Tout à coup, ses traits se détendirent. Une faible lueur d'espérance se levait dans son âme agitée. Au fond de la gorge où il se trouvait, à la base même du monticule, il avait aperçu un trou, qui pouvait être l'ancien terrier d'un renard ou d'un chien sauvage. Pourquoi ne s'enfuirait-il pas dans cette tanière comme font les bêtes traquées? Il lui restait une chance sur 10 de n'être pas aperçu par ceux qui le poursuivaient. Sans hésiter, sans réfléchir, il se jeta à plat ventre et s'insinua à reculons dans le terrier, dominé en cet instant par la seule crainte que, quelque bête sortant des profondeurs de sa retraite, ne vînt lui ronger les pieds pendant qu'il était ainsi immobilisé. Quand toute sa personne eut ainsi disparu dans l'étroite galerie souterraine, il provoqua un léger éboulement à l'entrée de façon à devenir entièrement invisible. Mais comme il fallait qu'il respirât, il se fraya en allongeant le poing un trou juste assez grand pour lui servir de prise d'air. Deux fois, cette espèce de fenêtre fut obstruée par le sable que le vent faisait tourbillonner. « C'est une chance, » pensa-t-il, le cœur palpitant d'une angoisse mortelle. « Ces tourbillons vont effacer toutes mes traces. Si les détectives n'ont pas de chien avec eux, ils ne me trouveront pas. » Au-dessus de sa tête, au sommet du monticule, il entendait les cris et les jurons des matelots qui interpellaient les hommes de Floridor et manifestaient leur surprise de la disparition du bandit. Plus mort que vif, Toby se compara à la bête traquée qui, terrée au fond de son gîte, entend approcher les chasseurs. Cependant, son stratagème eut un plein succès. Il ne vint à aucun de ses adversaires l'idée que celui qu'il cherchait pût être dissimulé sous ce fin et poudroyant sable rouge que la brise soulevait autour d'eux en épais nuages. Après une longue discussion, ils supposèrent que le bandit avait dû gagner la falaise rocheuse qui s'élevait à gauche de la crique. Ils se dirigèrent de ce côté. Pendant ce temps, Dad se faufilait de buisson en buisson et d'arbre en arbre dans le bois où il s'était réfugié. Mais il comprenait que ce jeu de cache-cache ne pourrait se prolonger indéfiniment, et il cherchait dans sa cervelle matoise quelques stratagèmes inédits. En fin de compte, les ruses les plus simples sont parfois les plus efficaces, il réussit à prendre une certaine avance et en profita pour escalader le tronc d'un de ces gigantesques séquoias dont il existe encore un certain nombre en Californie, malgré l'acharnement avec lequel on s'est efforcé de les détruire. On sait que certains de ces conifères atteignent une hauteur extraordinaire. Ce sont les plus grands arbres de l'univers. Le roi des étoiles, dans le parc de Mariposa, a 122 mètres de haut. Le grizzly, 110 mètres, juste le double de la hauteur de la tour Saint-Jacques. Le séquoia qu'avait escaladé Dad, sans égaler à ces géants, avait 40 mètres de haut, et ses branches touffues abritaient tout un peuple d'oiseaux et d'écureuils. Dad grimpa aussi haut qu'il put et s'installa commodément dans une espèce de fauteuil naturel que formaient deux branches fourchues. À travers le feuillage, il apercevait le magnifique panorama de l'océan et de la plage, et il assista, se comparant lui-même à un spectateur confortablement installé dans sa loge, à la chasse mouvementée que l'on donnait à son complice, et il constata avec une malicieuse satisfaction que ce dernier avait, lui aussi, réussi à dépister ses ennemis. Pour son propre compte, il pensait n'avoir rien à craindre. Il avait accompli son escalade sans être vu, et sans faire beaucoup plus de bruit qu'un des gros écureuils gris qui s'ébattait sur les branches voisines. Pendant quelque temps, il s'amusa d'entendre au-dessous de lui les exclamations de dépit de ceux qui le cherchaient en battant consciencieusement les buissons et en tirant des coups de revolver.
« Ils jettent leur poudre aux moineaux !» se dit-il philosophiquement. « Ils finiront bien par en avoir assez !»
En effet, vers le milieu de la journée, cris et détonations avaient cessé, et le bois était retombé dans le silence. Mais Dad était prudent. Il décida sagement de ne quitter son perchoir qu'à la nuit close. Pour tuer le temps et aussi pour tromper la faim dont il commençait à ressentir les premiers tiraillements, il s'amusa à dévaster les nids des écureuils où il trouva en abondance des noix de cajou, des cacahuètes, des amandes de pin pignon et d'autres menus fruits. Ensuite, il fuma une pipe, compta et recompta les banknotes qu'il avait en portefeuille. Mais en dépit de ses distractions ingénieuses, les heures lui parurent d'une longueur mortelle. Et ce fut avec un véritable soulagement qu'il vit le soleil disparaître derrière les flots du Pacifique.
« Et pas trop tôt !» murmura-t-il en s'étirant. « Je me sens les jambes ankylosées !»
Il commença à descendre avec précaution et atteignit le sol sans incident.
« Je vais en être quitte pour une promenade au clair de lune, » se dit-il. « Ça aurait pu finir plus mal. »
Mais il avait à peine fait quelques pas qu'un jet aveuglant de lumière électrique le frappait au visage en même temps qu'une grêle de coups de feu qui semblait partir de tous les coins du bois hachait les feuillages autour de lui. Des cris retentissaient de tous côtés.
« C'est lui ! Arrêtez-le ! Je savais bien qu'il n'était pas sorti du bois !» « À vous, tirez dessus! À droite, le projecteur! Ne le laissez pas rentrer dans le bois !»
Le cône de lumière qui évoluait tout autour de lui et fouillait les coins les plus obscurs des buissons gênait énormément Dad dans sa fuite. Il avait beau s'abriter derrière les troncs, les rayons du puissant projecteur dont Floridor avait eu l'idée de se munir dénonçaient chacun de ses mouvements et l'entouraient d'une auréole livide qui donnait au tireur toute faculté pour viser. Le fugitif comprit que la situation était désespérée. Déjà, une balle avait emporté son chapeau de paille. Une autre lui avait éraflé le mollet. De plus, il était à bout de souffle. Il était arrivé à un épais taillis. À deux pas de lui, une balle coupa net une branche de tulipier.
« Je suis mort !»
cria Dan en se laissant tomber à terre de toute sa hauteur, bien qu'il n'eût été nullement touché. À terre, il se trouvait en dehors du cône de lumière émané du projecteur. Il rampa doucement jusqu'à ce qu'il se trouvât de l'autre côté du massif. Alors, il se releva, et certain que le feuillage dissimulait ses mouvements, il fila en droite ligne vers des champs et des jardins qu'il apercevait confusément à la lisière du bois. Ses ennemis avaient perdu sa piste, et le cherchaient dans le bois, pendant que le dos courbé, il traversait un champ de maïs. Parvenu à l'extrémité, il avança avec précaution la tête en dehors des hautes touffes et regarda. La lune venait de se lever. Sa pâle clarté montrait à 200 mètres de là, sur la droite, la silhouette d'un homme armé d'une carabine. Dad se tourna vers la gauche. Là aussi, il y avait une sentinelle.
« Ah ça ! » ricana-t-il. « Ils se sont donc mobilisés tout un bataillon ! Ils ont décidément envie d'avoir ma peau !»
Des clameurs s'élevaient du côté du bois. le rayon blanc du projecteur se démenait aux quatre coins de l'horizon. Il fallait prendre un parti. Dad s'avisa alors qu'il se trouvait auprès d'une haie qui séparait le champ de maïs de la propriété voisine, et il chercha un trou dans cette haie. Il venait d'en découvrir un quand la voix d'un des hommes en sentinelle arriva jusqu'à lui.
« Il n'est certainement pas venu de notre côté, » disait l'homme.
« D'ailleurs, » riposta l'autre, « c'était stupide de sa part de se diriger vers les habitations. Il est bien trop rusé pour avoir agi de la sorte. »«
Sauvé !» pensa Dad.
Sans bruit, si doucement qu'il avait fait à peine remuer les branches, il s'était glissé dans le jardin, d'où montaient les pénétrants parfums des fleurs humides de rosée. La façade blanche d'une villa apparaissait au-dessus des palmiers, des yuccas et des rhododendrons géants, dont le feuillage métallique et raide remuait doucement dans le vent du soir avec un bruit d'eau courante. Dad vit que les fenêtres du rez-de-chaussée étaient éclairées. Il eut bien voulu regarder à l'intérieur, mais les jalousies étaient baissées. Il demeura un instant dans l'expectative, puis un pas fit crier le gravier des allées. Pris de panique, le fugitif gagna précipitamment une serre et se faufila par la porte entrebâillée. L'oreille tendue, il écoutait. Plus un bruit. C'était une fausse alerte. La serre était pleine de fleurs et de fruits. L'arôme puissant des ananas qui lui montait aux narines rappela à Dad qu'il n'avait presque rien mangé depuis la veille. En tâtonnant, il choisit un des fruits les plus mûrs, coupa non sans peine la tige dure et résistante de la plante et se rassasia. Il s'était assis sur une caisse pour se reposer et pour réfléchir. Son plan était simple, mais il lui parut excellent.
« Dès que tout le monde dormira dans cette maison, se disait-il, je sortirai carrément par la porte qui doit donner sur la grand-route. Ce côté-là n'est sûrement pas surveillé. Ici, il n'y a pas de chien pour donner l'alarme. Ça ira tout seul. »
Il demeurait à la même place, en proie à une vague somnolence contre laquelle il dut lutter. Des heures passèrent. Les lumières avaient disparu des fenêtres du rez-de-chaussée. Dad eut l'impression qu'il était très tard et que tous les habitants de cette maison étaient plongés dans le sommeil. Le moment était venu d'agir. Ses yeux s'étaient accoutumés aux demi-ténèbres de la serre et il avait constaté qu'elle communiquait avec l'intérieur de l'habitation par une porte-fenêtre qui n'était même pas fermée à clé. Il pénétra sans difficulté dans un large corridor, mais là, l'obscurité était complète. Marchant sur la pointe des pieds, tâtant les murs prudemment, Dad se trouvait fort embarrassé. Sur le corridor donnaient plusieurs portes. Il lui fallut deviner quelle était celle qui aboutissait au vestibule, et de là à la grande route. Quelques minutes s'écoulèrent, mais Dad n'était pas homme à hésiter longtemps. Puis il se dit qu'à 7 heures de la nuit, le rez-de-chaussée devait être désert, et il poussa délibérément la porte qui, d'après ses calculs, était la bonne. Il s'était lourdement trompé. Dans sa précipitation, il venait de pénétrer dans une chambre de malade où une veilleuse électrique répandait une douce lumière bleue. Sur le lit, le visage exsangue, les yeux grands ouverts et comme exorbités par la fièvre, gisait une jeune fille dont l'opulente chevelure blonde était éparpillée sur l'oreiller comme une gerbe d'or. À son chevet, une autre jeune fille somnolait, un livre sur les genoux.
« Rosie !» s'écria Dad éperdu, en reconnaissant dans la malade sa victime du matin.
Il détala précipitamment, en pestant contre la malchance qu'il avait précisément conduit dans la maison de celle qu'il avait voulu assassiner. À la vue du bandit, Rosie s'était dressée sur son séant, les yeux hagards, la face crispée par l'épouvante.
« C'est lui !» bégayait-elle. « L'assassin, celui qui m'a poignardée. Il était habillé en ministre. » « Au secours, Nancy, défends-moi, il est revenu pour me tuer !»
Nancy, la chambermaid de Miss Grice, s'empressa de la recoucher et de la calmer.
« Je vous en prie, Miss, lui dit-elle, ne bougez pas, vous allez rouvrir votre blessure. Il faut rester immobile. Promettez-moi que vous ne bougerez pas, on va s'emparer de ce gredin, cela sera vite fait. »
Nancy était une fille courageuse. Elle saisit le Browning que Monsieur Grice avait oublié sur la table et s'élança dans le couloir, après avoir tourné le commutateur. Elle vit Dad qui s'enfuyait vers la serre. Dans son obstination à trouver une sortie du côté de la rue, il avait perdu plusieurs minutes à essayer d'ouvrir les autres portes, qui, toutes, s'étaient fermées. Il comprit qu'il n'avait plus qu'une ressource. c'est de s'en retourner par le même chemin qu'il avait pris pour entrer. Mais il était trop tard. Au moment où il allait sortir de la serre, Nancy fit feu et Dad, atteint à la cuisse, s'affaissa en poussant un cri de douleur. Déjà éveillé par le bruit de la détonation, M. Grice et ses domestiques accouraient. En un clin d'œil, le bandit fut mis hors d'état de nuire. Après qu'on eut pansé sa blessure, il fut placé sur un lit de sangles et gardé à vue en attendant l'arrivée des magistrats. Dès le matin, il était conduit à San Francisco, sous bonne escorte et mis en cellule. Chapitre 2. Dead en prison. Le détective John Jarvis, assisté de son secrétaire et ami le Canadien Floridor Kennel, était occupé, comme il le faisait tous les jours depuis quelque temps, à dépouiller un volumineux courrier venu d'Europe quand on annonça le capitaine Martin Rampal, le fiancé de Rosie Grice. Le brave marin paraissait radieux. « Je parie que Mick Grice va mieux !» s'écria Floridor après avoir cordialement serré la main de son compatriote. « Ça se devine rien que ta façon de sourire !»«
C'est vrai, elle est aussi bien que possible !»«
À quand la noce ?» demanda gaiement John Jarvis.
« Dès que ma petite Rosie sera tout à fait rétablie, ce qui ne tardera pas. Maintenant que cette vilaine histoire est finie, elle aura autant de hâte de s'appeler Madame Rampal qu'elle en avait peu il y a 15 jours.
« Eh, tu nous invites ?
Il ne manquerait plus que je vous oublie. »
Vous serez les deux témoins de la mariée. C'est une affaire entendue.
« Je suis heureux de ces bonnes nouvelles, » interrompit John Jarvis. « Somme toute, la blessure est moins grave que je ne le craignais. »
La lame a glissé le long des côtes, heureusement, et elle n'a pas traversé la cage thoracique. Rosie est debout depuis plusieurs jours. Bien qu'elle soit un peu honteuse de s'être laissée rouler aussi naïvement, jamais je ne l'ai vue aussi gaie. Elle rit maintenant de bon cœur quand on lui parle du faux ministre avec son bout de cierge, sa Bible et son surplis. Beaucoup, après une aventure pareille, ne feraient pas preuve d'un aussi bon caractère.
« Ce qui m'a ennuyé, » reprit Floridor, « c'est qu'on n'ait pas pu mettre la main sur le complice de Dad, sur Walker, qui nous a glissé entre les doigts comme une anguille. Je vais peut-être vous donner le moyen de le pincer. C'est précisément pour cela que je suis venu vous voir.
Vous avez des tuyaux sur ce triste personnage ?» demanda John Jarvis.
Mieux que cela, j'ai sa photographie. Cela vous permettra peut-être de l'identifier, car on ne m'ôtera pas de l'idée que ce nom de Walker n'est pas le sien.
Je suis tout à fait de votre avis. Ce doit être quelque convict en rupture de ban, et je ne serais pas étonné qu'il fût bien connu de la police. Mais une question. Comment avez-vous pu vous procurer cette photo ?
Le capitaine Rampal eut un gros rire.
Eh bien, facilement. C'est Rosie qui me l'a donnée. Cet effronté scélérat avait eu le toupet de la lui offrir avec une dédicace à ma chère fiancée Rosie. Elle était si humiliée quand elle a su à qui elle avait eu affaire qu'elle sera aussi contente que moi quand Walker aura été rejoindre son complice en prison. Le capitaine avait tiré la photo de son portefeuille. Il la passa à John Jarvis, qui l'examina longuement puis la tendit à Floridor.
« Il me semble que j'ai déjà vu cette tête-là quelque part, » fit le Canadien.
« J'ai la même impression, » dit le détective. « Mais nous examinerons ce document tout à loisir. » Le capitaine Rampal s'était levé. « Je me retire, » dit-il. « Je sais que vous avez de la besogne par-dessus la tête. Je serai navré de vous faire perdre un temps si précieux. »«
C'est bien pressé, » répliqua malicieusement Floridor. « Avoue plutôt que tu as attendu par Miss Rosie. »«
C'est ma foi vraie, » fit le brave marin en gagnant la porte. « On m'a toujours dit que j'avais bien fait de ne pas entrer dans la diplomatie. Je ne sais pas cacher ce que je pense. »
Quand le capitaine se fut retiré, John Jarvis reprit la photographie du prétendu Walker et se mit à l'étudier silencieusement. S'il n'avait pas la moustache blonde, comme nous l'avons constaté à Cliff House, je sais bien à qui il ressemblerait.
Et moi aussi.
Mais on peut changer la couleur de ses moustaches. Tiens, donne-moi le dossier de l'affaire Toby Croghan. Je crois que cette fois je ne me trompe pas.
Floridor ouvrit une armoire de fer remplie de haut en bas de paperasses soigneusement classées et en tira un dossier qui renfermait entre autres documents une série de photographies.
Nous avions deviné juste, déclara le Canadien. Il suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte que le prétendu Walker n'est autre que Toby Croghan, qui joua si audacieusement le rôle de notre ami Rabbington, pendant que ce dernier était retenu prisonnier par Klaus Christian.
Il s'est donc évadé ?
Non, répliqua Floridor en mettant sous les yeux de John Jarvis une coupure de journal assez récente. Toby Croghan, qui avait fait preuve de courage au cours d'un incendie, a bénéficié d'une commutation de peine. Il est libre comme l'air. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle soit revenue tout droit à San Francisco.
Ce ne peut être que dans de mauvaises intentions. Nous savons que ce scélérat aux multiples avatars n'est autre que le fils de M. Robinson. Ce fils que l'on croit mort depuis des années. La présence de ce misérable si près de son père ne me présage rien de bon pour la tranquillité de ce dernier. S'il était au courant de ce que nous savons, il n'en dormirait plus.
Cette conversation fut interrompue par le noir qui remplissait les fonctions de valet de pied. Il apportait à son maître une lettre urgente qu'on venait d'apporter. John Jarvis ouvrit, et après en avoir pris connaissance, la rejeta sur son bureau avec un mouvement de dépit.
« Lisla, murmura-t-il,
vous êtes averti que si Ted n'est pas promptement remise en liberté, de graves ennuis menacent M. Robinson et sa charmante pupille Miss Elsie. Ne dirait-on pas que ce misérable a entendu notre conversation ? Êtes-vous bien sûr que cette lettre vienne de lui ?
Qui veux-tu qu'il l'ait écrite ?
D'ailleurs, compare l'écriture avec celle de la dédicace à Rosie. Il n'y a pas le moindre doute à avoir.
Je t'avoue que je suis inquiet. Je sens dans tout cela la main de Klaus Christian.
Que décidez-vous ? Je suppose que vous n'allez pas céder aux menaces de ce convict.
Ce serait mal me connaître que de s'imaginer une pareille chose.
Je vais tout simplement tâcher de pincer ce Toby Crogan, puisque tel est maintenant son nom légalement, avant qu'il n'ait eu le temps de nuire. Demande l'auto, nous sortons.
Et nous allons ?
À la prison, voir Dad lui-même. Peut-être nous fournira-t-il quelques renseignements précieux sur son complice. L'honorable Monsieur Hobson, directeur de la prison, fit à John Jarvis l'accueil le plus empressé. Il consentit sans la moindre difficulté à faire venir Dad au parloir afin que le détective pût lui poser toutes les questions qu'il jugerait convenables. Pendant qu'un gardien courait chercher le prisonnier, l'aimable directeur donna sur celui-ci quelques détails intéressants. « Ce Dad, expliqua-t-il, ne me fait nullement l'effet d'un criminel endurci. Il se montre très soumis et même très pieux. Il a fait demander à plusieurs reprises l'aumônier de la prison. » Et celui-ci se montre enchanté des bonnes dispositions de son pénitent. En outre, Dad est un garçon fort intelligent, plutôt sympathique. Il a, du premier coup, su se concilier les bonnes grâces de tout le personnel.
« Ne vous y fiez pas trop, » murmura le détective. « C'est un des plus rusés schnappants que je connaisse. »
« Il ne m'a pas produit cette impression, » répondit le directeur assez sèchement. « Qu'il soit sympathique tant qu'il voudra, » reprit John Jarvis quelque peu vexé. « Il n'en a pas moins tenté d'assassiner une jeune fille. »
« Je n'ai pas dit qu'il fût sans reproche, » reprit le directeur, sur l'esprit duquel, décidément, Dad avait su déjà prendre une certaine influence. « Je n'ai pas dit cela, mais il a une façon d'expliquer ce qu'on appelle son crime, qui montre l'affaire sous un jour tout différent. Je serais curieux de savoir ce qu'il peut bien alléguer pour sa justification.
Il prétend qu'en servant de complice à son ami Walker, dans la cérémonie tragicomique du mariage en pleine mer, il n'a cru faire qu'une simple farce. Une farce d'un goût déplorable, évidemment. Mais quand il a vu des hommes affublés de peaux de phoque tirer sur lui, il a perdu la tête. Il s'est imaginé que Miss Grice l'avait attiré dans un guet-apens. C'est alors qu'il l'a frappé. Son avocat plaidera la légitime défense.
« Quel effronté coquin !» se récria Floridor. « Je suppose que le jury n'admettra pas une bourde pareille.
Hé hé !» répartit le directeur avec un petit rire fêlé. « Rien n'est moins sûr. Cela dépendra de la composition du jury. Puis cette Miss Grice... s'est compromise dans une histoire de chèque qui, malgré ce qu'on nous raconté les journaux, ne semble claire à personne. Son avocat ne manquera pas d'insister là-dessus.
« Quel est cet avocat ?» demanda John Jarvis.
« Maître Garrison. »«
Un habile homme, » dit Floridor.
« Trop habile même, » reprit le détective. « Crois que ce ne sera pas le calomnier en disant qu'il s'est compromis dans une foule d'affaires plus ou moins louches et qu'il passe pour entretenir d'excellentes relations avec les pires bandits de San Francisco. » dont il est, pour ainsi dire, le défenseur attitré. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Dad lui-même. Toujours vêtu de son trop voyant complet à carreaux, il s'appuyait sur une canne et s'avançait péniblement entre deux gardiens. « Je vous laisse, voilà votre homme, » dit le directeur. Il quitta le sévère parloir au siège de chêne massif qu'une forte grille séparait en deux dans toute sa largeur. Les deux gardiens, comme il avait été convenu, s'écartèrent de façon à ne pouvoir entendre la conversation tout en ne perdant pas de vue leur prisonnier. Dad salua correctement John Jarvis et le remercia avec son aplomb habituel de l'honneur d'une aussi flatteuse visite.
« Je vous attendais un peu, d'ailleurs, » ajouta-t-il. « Je sais que vous avez reçu le petit mot que vous a adressé un de mes amis. Je suppose que vous allez faire quelques démarches pour obtenir ma mise en liberté. »
Vous avez un fier toupet, mon garçon, s'écria John Jarvis, qui contenait à grand-peine une formidable envie de passer la main à travers les barreaux et d'allonger d'importance les oreilles du hideux petit drôle.
Moi ? Ah, je ne suis un peu plus timide, ricana-t-il. Mais vous comprenez, je me défends. J'emploie les armes qui sont en ma possession. Croyez-vous que cela fera plaisir à Miss Rosie, à ses parents et à son futur mari, de voir toute cette histoire étalée au grand jour, jetée en pâture à une foule avide de scandales, comme disent les journaux? Moi, si j'avais une fiancée, je n'aimerais pas qu'il lui arrivât une pareille aventure.
Je donnerais de bon cœur 10 $ pour chiffler cette petite crapule, grommela Floridor indigné du ton goguenard des terres.
Celui-ci ne fut pas mine d'avoir entendu. Mais il se recula prudemment de la grille, non sans avoir esquissé une laide grimace à l'adresse du Canadien.
Écoutez, proposa John Jarvis, surmontant la répulsion et le dégoût qu'il éprouvait. Si vous nous fournissez les moyens d'arrêter Walker, je m'arrangerai pour obtenir votre mise en liberté, et vous aurez une bonne somme.
Je ne marche pas. Je sais que la présence de Walker vous embête bigrement, répliqua Dad avec cynisme. Mais c'est justement pour ça que je ne vous donnerai aucun tuyau sur son compte. Et d'abord, moi, je n'ai pas l'habitude de trahir les copains. Vous parliez d'une belle somme. Je sais comment en avoir une encore plus belle. Je connais un certain monsieur Rabington qui donnerait gros pour apprendre certaines choses qu'il ignore.
John Jarvis était redevenu parfaitement calme. Un moment exaspéré par le persiflage du jeune bandit, il le considérait maintenant de l'œil tranquille dont un naturaliste observe les allées et venues d'un scorpion rouge, d'un crapaud pipa ou de tout autre animal immonde et dangereux.
« Je suis charmé de connaître vos intentions, » lui répondit-il froidement. « Vos menaces, vous devez le supposer, n'ont aucun effet sur moi. Mes précautions sont prises pour en empêcher la réalisation. Quant à Walker, je vous promets qu'il sera bientôt sous les verrous. »
Dad haussa les épaules.
« Walker est trop malin pour se faire prendre, et moi, je serai libre le jour où cela me conviendra. »
John Jarvis et Floridor se retirèrent. Le Canadien était exaspéré.
« Quelle impudente petite frépouille !» s'écria-t-il. « Et ce qu'il y a de plus exaspérant, c'est que le directeur, M. Hobson, le prend pour un petit saint. Nous avons perdu complètement notre temps en venant ici. » »«
Ce n'est pas mon avis. Nous avons appris une chose importante. » »«
Laquelle ?» Dad était tellement heureux de nous menacer qu'il a manqué de prudence. Nous savons maintenant qu'il possède les moyens de correspondre avec le dehors. Il y a là un point de départ, une filière pour arriver jusqu'à Toby Croghan. Retournons chez le directeur.
Monsieur Hobson parut fort étonné en apprenant que ce pauvre Dad communiquait avec des complices demeurés en liberté et, malgré les affirmations répétées des deux détectives, il n'en voulut rien croire.
« Ce que vous me dites là est impossible, » déclara-t-il. « Dad est au secret. Il ne reçoit aucune lettre. Le gardien qui le surveille est en fonction depuis 10 ans et possède toute ma confiance. La seule faveur que j'ai accordée à notre prisonnier, encore est-ce une bien légère faveur, c'est de recevoir des journaux, ou plus exactement un journal. » Le San Francisco Evening. Cette feuille est, d'ailleurs, soigneusement examinée par moi avant d'être remise à son destinataire.
John Jarvis avait dressé l'oreille. « Pourrais-je voir un de ces journaux ?» demanda-t-il.
« Parfaitement. En voici précisément un que je viens de recevoir. Vous pourrez constater par vous-même qu'il ne comptait rien de suspect. Pas une annotation crayon, pas un mot souligné, pas une tache. »
Le détective déplia le papier qui avait l'aspect neuf, sans cassure, du journal fraîchement sorti des presses et exhalant encore l'odeur spéciale, très caractéristique de l'encre d'imprimerie. À la grande surprise de M. Hobson, John Jarvis avait pris sa loupe et lisait chaque article ligne par ligne.
« Parbleu ! » s'exclama-t-il brusquement. « Je l'aurais parié. Prends un crayon, Floridor, et note ce que je vais te lire. Y es-tu ? »
« Oui. »
« Écris. T-U-A-S... » L-A-L-I-M-E-E-T-L-A-S-C-I-E.
Tu as la lime et la scie.
Hein ?
S'exclama M. Hobson abasourdi. Qu'est-ce que cela signifie ?
Tout simplement que Dad va recevoir aujourd'hui une lime et une scie. Son correspondant anonyme le prévient, sans doute pour qu'il examine avec attention spéciale les mets dont se compose le menu du lunch qui lui est envoyé par son restaurant. Car je suppose que Master Dad, en véritable gentleman, fait venir ses repas du dehors. Il n'est pas difficile de deviner quel usage peut faire un prisonnier d'une scie et d'une lime.
Une évasion ?
Bégaya le directeur devenu blême.
« Il ne manquerait plus que ça !»«
Décidément, ce petit Ted est plus dangereux que je ne croyais !»«
Mais comment avez-vous pu deviner cela ?»«
C'est très facile, » fit le détective en souriant. « Au-dessus de certaines lettres, on a fait une piqûre d'épingle à peu près invisible si on ne regarde pas avec beaucoup d'attention. C'est très simple, comme vous voyez. Prenez la loupe, vous vous rendrez compte par vous-même. »«
Très fort !»
grommela le digne Monsieur Hobson, de plus en plus ébahi.
« Mais, pardon, encore une question.
Pourquoi le message n'indique-t-il pas à Dad où il trouvera la lime ?»«
Parce qu'il le sait, sans nul doute, par un précédent message. »«
Pourvu que ce jeune vaurien n'ait pas déjà lynché, venez avec moi. »
Monsieur Hobson emmena ses deux visiteurs jusqu'au local situé près de la loge du concierge où les envois destinés aux prisonniers étaient déposés pour y être examinés par un préposé spécial. Ce fonctionnaire, armé d'un outil ad hoc, une fourchette sans courbure, aux pointes aiguës et très longues, venait précisément d'accorder son visa au lynch destiné à Master Dad. Les éléments du dit lynch étaient disposés, avec luxe appétissant, sur un grand plateau recouvert d'une cloche de verre, précaution rendue presque indispensable par le nombre des insectes. Le menu, très simple et conforme au règlement de la prison, comprenait une tranche de roast beef saignant, un plat d'asperges, un triangle de ce capiteux fromage de Limburger, d'un arôme aussi violent que notre Livaro, et quelques fruits.
« Rien de suspect là-dedans ? » demanda M. Hobson.
« Non, monsieur le directeur. Regardez d'ailleurs. »
Le préposé, sous les regards attentifs des spectateurs, larda de son trident d'abord le roast beef, puis les plus grosses des asperges, puis les fruits. Il ne négligea que le fromage si avancé qu'il tombait en liquéfaction.
« C'est singulier, » fit le directeur, déjà hésitant. « Est-ce que nous nous serions trompés ?»«
Voulez-vous me permettre de regarder à mon tour ?» dit le détective. Dédaignant le roast beef, il alla droit aux asperges et commença par les plus petites. La première ne renfermait rien. À la seconde, le trident heurta un corps dur, qui était une petite lime d'excellent acier.
« Admirable !» s'exclama M. Hobson.
« Maintenant, cherchons la scie, » fit John Jarvis imperturbable.
« Elle est dans un fruit, » déclara le Canadien. « Par exemple, cette grenade ?»«
Tu n'y es pas. Je pense qu'elle se trouve plutôt dans ce modeste fromage. »
Un coup de trident donna raison au subtil détective. Le Limburger renfermait un bout de scie à métaux, de cet acier spécial, chromé et vanadié, qui a raison d'un barreau de fer ordinaire en moins de temps que si c'était un simple bâton de chaise.
« Permettez-moi de vous dire que vous êtes un homme étonnant, » déclara M. Hobson avec respect.
« Mais pourquoi diable avez-vous commencé par les asperges les plus petites ?»«
C'était tout naturel.
Ceux qui ont fait cet envoi ont pensé tout naturellement que les grosses asperges exciteraient plus de méfiance que les petites, et ils ont agi en conséquence. »«
Je vous remercie beaucoup de cette petite leçon de choses. J'ai grande envie de fourrer Ted au cachot pour lui apprendre à se moquer du monde. Je vais commencer par lui supprimer les journaux. »«
Gardez-vous-en bien. » Grâce à eux, nous serons au courant des projets de votre pensionnaire et nous finirons peut-être par mettre la main sur son correspondant.
Puis, nous ne sommes pas forcés de remettre à Dad les mêmes exemplaires que ceux qui lui seront adressés.
Je comprends. Ce sera nous qui écrirons à Dad qui croira toujours avoir affaire à son complice.
Précisément. Je viendrai demain matin et peut-être aurai-je découvert quelque chose de nouveau.
John Jarvis et Floridor prirent congé de l'excellent Monsieur Hobson, qui avait complètement changé d'avis sur le compte de son pieux et discret pensionnaire. Le lendemain, les lettres piquées sur le numéro du San Francisco Evening News donnaient cette phrase. « Ton envoi a-t-il été intercepté ? N'as-tu pas reçu le journal ? Si tout va bien, signal rouge. Sinon, signal noir. » John Jarvis remplaça ce message par le suivant. « Patience, plus de signaux jusqu'à nouvel ordre. » Sur la demande du détective, M. Hobson, sous un prétexte quelconque, fit venir Dad à son cabinet. Pendant ce temps, la cellule du détenu était minutieusement fouillée. On y découvrit, entre autres objets, une petite fiole de chloroforme et deux mouchoirs de poche, un noir et un rouge. John Jarvis arbora ce dernier à la haute et étroite fenêtre qui éclairait la cellule, et il eut soin de remplacer le chloroforme par de l'eau pure. Floridor, de son côté, avait fait une autre enquête. Caché dans l'embrasure d'une porte, il avait vu un gosse dépenaillé, un véritable hoodlum, déposé chez la concierge de la prison, le numéro du San Francisco Evening, et il avait filé dans l'espoir d'arriver par lui jusqu'au mystérieux expéditeur des journaux. L'attente du Canadien avait été déçue. L'enfant, sa course faite, s'était dirigé vers les quais, où il s'était mis à jouer avec d'autres polissons du même acabit. Floridor l'avait alors abordé, et après l'avoir amadoué par le don d'une pièce de 5 cents, il lui avait posé quelques questions, et avait appris ceci. Chaque matin, vers 9 heures, un gentleman, à grande barbe, attendait l'enfant à l'angle de Kernel Street et lui remettait le numéro du journal destiné à date. À l'heure dite, le Canadien se rendit à l'endroit indiqué. Mais il n'aperçut ni l'enfant, ni le gentleman à longue barbe, ce qui lui donna à penser qu'il avait dû lui-même être filé. À partir de ce jour, les envois de journaux cessèrent brusquement. John Jarvis comprit qu'il avait affaire à forte partie. Il dut se contenter de faire surveiller Dad plus étroitement que jamais. La même semaine, l'avocat de ce dernier, Maître Garrison, demanda que son client fût mis en liberté provisoire, moyennant une caution de $1,000, et faillit avoir gain de cause près des juges. John Jarvis, mis au courant du fait, dut user des plus hautes influences qu'il possédait pour empêcher que, cette fois encore, le jeune bandit n'échappât au châtiment qu'il méritait et ne reprît le cours de ses exploits. Quand Maître Garrison vint annoncer à Dad, au parloir de la prison, le rejet de sa demande, il trouva son client fort déprimé. La brusque suppression de sa correspondance, l'isolement où il se trouvait réduit, lui donnait à craindre que Toby n'eût été arrêté à son tour. Maître Garrison, un malicieux petit vieillard, sec comme un sarment de vigne et toujours en proie à une nervosité qui ne lui permettait pas de tenir en place, connaissait sans doute les raisons de la mélancolie de Master Dad. Mais habitué à traiter des affaires souvent compromettantes avec les malfaiteurs professionnels, l'expérience lui avait appris à faire preuve de la plus grande prudence avec ceux qu'il était chargé de défendre. Il trouvait moyen de leur rendre d'importants services sans qu'ils puissent prendre avantage sur lui de cette espèce de complicité plus ou moins tacite. « Est-ce que dans votre jeune âge, demanda-t-il à Dad à brûle-pourpoint, vous n'avez pas été employé dans les télégraphes ?» Le jeune bandit regarda son défenseur d'un air interrogatif. Il ne comprenait pas dans quel but une pareille question lui était adressée. « Oui, répondit-il avec une grimace, je ne sais comment vous avez appris ce détail, mais si vous espérez obtenir de l'administration un certificat élogieux me concernant, vous faites entièrement fausse route. Pour parler franchement, on m'a flanqué dehors. Je faisais un très mauvais télégraphiste. » Maître Garrison parut entièrement de cet avis. « Je parie, fit-il en riant, que vous ne connaissez seulement pas les signaux de Morse. » Dad jeta à son défenseur un regard expressif. « Je les connais parfaitement, répondit-il. Avec la ligne et le point combinés de diverses façons, on reproduit tout l'alphabet. Je serai encore en mesure, à l'heure actuelle, d'expédier un télégramme. Mais pourquoi me demandez-vous cela ? » ?»« Pour rien, histoire de causer. Cela peut toujours servir de connaître l'alphabet Morse. » Dad n'insista pas. Du premier coup, il avait compris que sans vouloir se montrer plus explicite, Maître Garrison venait de lui donner une indication précieuse à la barbe même du détective chargé, conformément au règlement, d'assister à l'entretien. Après le départ de l'avocat, Dad fut ramené à sa cellule dans une disposition d'esprit beaucoup plus favorable. Son découragement, ses inquiétudes avaient disparu. « Évidemment, se répétait-il, ce vieux Garrison, qui est futé comme un renard, a eu ses raisons pour me parler de l'alphabet Morse. C'est un homme qui n'a pas l'habitude de dire des choses inutiles. Tout cela signifie que Toby ne demeure pas inactif. Il va trouver sans doute un autre moyen de correspondre. Par exemple, je serais curieux de savoir comment il s'y prendra. Je ne reçois plus ni lettres ni journaux. Et il y a devant ma porte un argousin qui, toutes les 5 minutes, regarde ce que je fais. » Tout le restant de la matinée, Dad demeura aux aguets, mais inutilement. Aucun mystérieux signal ne lui fut transmis. La moitié de l'après-midi s'écoula de la même façon, et le prisonnier commençait à penser qu'il s'était trompé sur les intentions de Maître Garrison, quand une tache lumineuse, qui allait et venait sur la muraille blanchie à la chaux, attira son attention. La tache demeura immobile quelques secondes, puis se déplaça lentement de droite à gauche pour demeurer de nouveau immobile. Dad faillit jeter un cri de triomphe qu'eût immanquablement éveillé l'attention du gardien en faction dans le couloir. « Le trait et le point » balbutia-t-il éperdu. il venait de se rendre compte que, posté dans une des maisons situées en face de la prison, Toby, armé d'un miroir en guise de réflecteur, se servait d'un rayon de soleil comme messager. Bien des fois, Dad, étant enfant, s'était amusé à ce jeu. Il se hissa aussitôt sur son lit pour atteindre la fenêtre qui était très élevée et y arbora son mouchoir de poche pour faire entendre à son ingénieux correspondant qu'il avait compris. Pendant 2 heures, il enregistra patiemment le message qui lui était transmis. Le gardien qui le surveillait à travers le guichet le vit étendu sur son lit et paraissant somnolé et n'eut aucun soupçon. Ce soir-là, Dad se coucha plein d'espoir, non sans s'être déclaré à lui-même que décidément, l'avocat Garrison était un maître d'homme.
Chapitre 3. Une clé qui n'ouvre pas. Après 5 semaines d'attente, le jour était arrivé où Dad allait comparaître devant la cour d'assises. En dépit des efforts de maître Garrison, la condamnation de son client paraissait certaine. Il se trouvait parmi les membres du jury, plusieurs amis de M. Grice, qui était fermement décidé à n'accorder au jeune vaurien aucune circonstance atténuante. Dad était au courant de cette circonstance, mais n'en paraissait pas ému. Depuis quelques jours, il émerveillait ses geôliers par sa belle humeur et les amusait par mille facéties. Ils en venaient à se demander si ce jovial fellow était vraiment un assassin. Beaucoup le croyaient innocent. Quand on vint le chercher pour le conduire au palais de justice, il manifesta la plus grande satisfaction. Il déjeuna de grand appétit sous les yeux du geôlier qui allait le conduire à la voiture cellulaire. « Je suis charmé de comparaître devant le jury, » déclara-t-il avec son aplomb habituel. « Je commençais à en avoir assez de vivre en cellule. Franchement, est-ce une existence pour un sportif comme moi ?»«
Je ne dis pas, » fit le gardien ébahi.
« Alors, vous êtes bien sûr d'être acquitté ?»«
Je vous parie $10 que je serai libre ce soir. »
« Je ne parie jamais. »«
Vous seriez sûr de perdre. Je suis innocent. » »«
Ce n'est pas ce que tout le monde dit. Mais comment convaincrez-vous le jury, les juges ?»«
C'est mon affaire. Je leur prouverai à tous que je suis encore plus malin qu'eux. »
Et Dad éclata d'un de ses bons et francs rires qui le rendit tout de suite sympathique. Son repas terminé, il se laissa gaiement mettre les menottes et se mit en route en devisant avec le gardien. Celui-ci le conduisit d'abord au bureau pour remplir certaines formalités. Là, se trouvait déjà une demi-douzaine de détenus arrêtés dans la nuit et dont on enregistrait les noms et prénoms. Dad et son geôlier durent attendre leur tour. Du bureau, on passa dans la vaste cour où s'alignaient les voitures cellulaires, un peu plus vaste, mais somme toute peu différente de notre populaire panier à salade, sauf qu'elles sont à traction automobile. Dad, toujours escorté de son inséparable compagnon, monta à l'intérieur du véhicule dont le second gardien ferma la porte à clé avant de se hisser sur le marchepied de la voiture. Le chauffeur mit son moteur en marche et le lourd véhicule démarra. Grâce à une petite fenêtre grillée, l'homme du marchepied, comme le veut le règlement, ne perdait pas de vue le prisonnier. Cependant, quand il vit ce dernier engagé dans une conversation animée avec son gardien, sa surveillance se relâcha quelque peu. On avait parcouru sans incident la moitié du trajet quand, dans California Street, la voiture cellulaire dut s'arrêter. L'essieu d'un camion chargé de poutres d'acier venait de se rompre. La rue se trouvait barrée dans sa largeur et, de ce fait, une foule de véhicules se trouvait immobilisée. Immédiatement derrière la voiture cellulaire, qui, prise dans l'encombrement, ne pouvait ni avancer ni reculer, il y avait une charrette de fruits traînée par 2 chevaux qui paraissaient ombrageux, sinon à demi sauvages. En dépit des efforts de leur conducteur, un paysan d'allure athlétique, ils ruaient, hennissaient, pétaradaient, de façon à rendre intenable la situation du gardien du marchepied. Une violente discussion s'ensuivit entre les 2 hommes.
« Faites reculer vos chevaux !» criait l'un. « Voyez bien que je ne peux pas !» répliquait l'autre.
Après un copieux échange d'épithètes désobligeantes, la paix se fit entre le charretier et le geôlier. Ce dernier consentit même obligeamment à tenir un instant la bride d'un des chevaux pendant que son interlocuteur rattachait une sangle. Quand il voulut reprendre sa place sur le marchepied, il trouva, sa profonde stupeur, la porte qu'il avait fermée lui-même 1/4 d'heure auparavant à moitié ouverte, et le plus inexplicable, c'est que la clé était demeurée sur la serrure extérieurement.
Il sauta d'un bond à l'intérieur. Il y trouva son camarade, râlant sur le plancher, une fine cordelette autour du cou. Dead avait disparu, ne laissant d'autres traces de sa présence que les menottes qui lui liaient les mains derrière le dos et dont il avait trouvé moyen de se débarrasser. Le malheureux geôlier était désespéré.
« Je vais être révoqué, peut-être poursuivi !» se disait-il éperdu. « On ne me croira jamais !»
Le charretier et le chauffeur du camion doivent être complices. Il faudrait donner la chasse à ce gibier de potence, et pourtant, je ne puis pas laisser mon camarade sans secours.
Il commença donc par couper la corde qui étranglait son collègue et fut heureux de constater que l'asphyxie n'avait pas eu le temps de faire son œuvre. Rassuré sur ce point, il se lança à la poursuite du fugitif après avoir réquisitionné l'aide de 3 policemen. Toutes les recherches furent inutiles. Il ne fut pas plus possible de retrouver Dead que s'il s'était évanoui en fumée. John Jarvis, aussitôt prévenu, se livra à une enquête qui mit en lumière divers traits curieux tout à l'honneur de la sagacité de Master Dead. Voici, expliqua le célèbre détective au directeur de la prison et à l'inspecteur en chef de la police, comment les faits se sont passés. Reprenons les choses dès le commencement. Il a bien fallu que quelqu'un débarrasse notre homme de ses menottes. Avant de monter dans la voiture, Dead n'a-t-il vu personne ? Il est demeuré 10 minutes dans le bureau de l'écrou où se trouvaient quelques malfaiteurs arrêtés la nuit dernière. Cela suffit. Soyez certains que parmi eux, il s'en trouvait un ou peut-être plusieurs qui s'étaient fait arrêter pour quelques délits insignifiants, dans le seul but de délivrer Dead de ses menottes.
Mais, objecta le directeur, il ne leur a pas adressé la parole. Il leur a tourné le dos tout le temps.
Précisément. Le truc est bien connu dans les pénitenciers. Les deux bandits se sont rapprochés dos à dos jusqu'à ce que le ressort des menottes de Dead se soit trouvé à portée des mains de son complice. Celui-ci n'a eu qu'un léger mouvement à faire pour déclencher le ressort. Quand Dead est monté dans la voiture, les menottes étaient ouvertes au lieu d'être fermées comme le croyaient ses gardiens. Il est facile alors de reconstituer la scène. Pendant qu'un autre complice, déguisé en charretier, occupe l'attention du gardien placé sur le marchepied, Dead se débarrasse de ses menottes et profite du moment où son geôlier lui tourne le dos pour lui passer au cou une cordelette préparée d'avance. L'homme est à moitié étranglé avant d'avoir pu jeter un cri.
Tout cela n'explique pas, interrompit l'inspecteur en chef, comment Dead a pu ouvrir la porte de la voiture.
Il n'a pas eu besoin de l'ouvrir. La porte était ouverte. Il n'a eu qu'à la pousser. Ce qui vous explique qu'on ait retrouvé la clé sur la serrure, extérieurement.
Vous avez cette clé?
La voici.
Regardez-la avec attention. C'est une de ces clés à pivot intérieur dont font usage les détrousseurs de coffre-fort. La clé est divisée en 2 parties dont l'une tourne sur l'autre, de façon à donner à celui qui s'en sert l'illusion qu'il a fait jouer le peigne de la serrure. Avec cette clé, on peut ouvrir une porte, mais on ne peut pas la fermer. Le gardien s'est imaginé avoir fermé la porte, alors qu'il n'avait fait que faire tourner la tige de la clé sur le peigneton. Le reste se devine. Dead, que favorisait dans ce cas sa petite taille, s'est faufilé dans la cohue et, maintenant, il doit être loin. Avouez que voilà une évasion bien combinée. Ce n'est pas pour rien que Dad est l'élève du docteur Klaus Christian.
Un mois après cette audacieuse évasion, Miss Rosie Grice, complètement guérie de sa blessure, épousait le capitaine Martin Rampal. Elle eut pour témoin le milliardaire Todd Marvel et son secrétaire. Une prime importante avait été offerte pour la capture de Dad et de Toby Grogan, mais en dépit des plus actives recherches, ils ne purent être découverts.